un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux t'appeler,
par les temps qui courent, Marie Richard.
Tu vas te bien.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Essayez d'attraper cette jubilation-là. Un jour, quelqu'un se propose de vous expliquer quelque chose de très complexe. Elle ou il attrape une allumette, déchire un bout de papier, trace un trait au crayon, utilise des mots limpides, des mots que vous comprenez, fait se déplacer une abstraction dans de la matière tangible, la bouge, détricote un nœud du langage auquel plus personne n'aurait osé toucher, l'éclair. Essayez d'attraper cette joie primordiale liée au désir de comprendre qui se voit récompensé. Vous aviez soif, on vous donne de l'eau. Voilà plusieurs années, Adeline Rosenstein, que vous faites ce geste avec votre série théâtrale d'écrits ravages, consacrée à ce qu'on appelle la question palestinienne, avec un grand Q, remontant bien en amont du XXe siècle et presque sans images. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
On pourra voir ce travail au Festival du Théâtre en mai, qui aura lieu du 25 mai au 3 juin au Théâtre Dijon-Bourgogne, et vous, vous jouerez les 2 juin et 3 juin. Quel numéro de la série, quel jour ?
La série en entier.
Les 2 jours.
Les 2 jours, voilà.
On va commencer par écouter Wajdi Mouad.
J'ai peu à peu compris qu'il y avait des silences qui n'étaient pas dus à des silences tout simplement parce qu'on ne parlait plus, mais à des silences qui étaient dus au fait qu'il y avait eu trop de honte, trop d'humiliation due aux douleurs, aux souffrances vécues par mes parents et par la génération de mes parents, et qu'il y avait une impossibilité de raconter à ma génération ce qui s'était passé. Et là, la question de la transmission a surgi, c'est-à-dire me disant, eh bien moi, lorsque mes petits-enfants arriveront et me poseront la question, il sera très important de me souvenir de la puissance de la parole. Il faudra trouver le courage pour raconter, même si c'était humiliant ou honteux. Transmettre, c'est faire ressentir, c'est pas seulement enseigner, c'est pas que ça. C'est faire ressentir, c'est bouleverser, c'est enflammer, c'est brûler, c'est illuminer la conscience de l'autre.
C'est le metteur en scène, auteur et dramaturge Wajdi Mouad pour commencer cet entretien, Adeline Rosenstein. Alors, il parle du courage qu'il lui a fallu à un moment donné. On ne sait pas exactement ce qu'il évoque ici dans cette archive, peut-être pour parler un peu de son histoire familiale ou peut-être tout simplement pour parler de la guerre au Liban ou de la guerre de manière générale et d'une impossibilité à raconter qui aurait été un point de départ. Quel a été votre point de départ à vous, si vous n'en avez pas marre de la raconter?
Non, j'en ai bien entendu pas marre. Mon point de départ, ce n'est pas un désir de parler de ma famille, mais c'est sûr que d'avoir pris conscience un jour que j'ai grandi dans des mensonges, ça fait partie d'une volonté de mener une enquête, en fait, d'essayer de trouver des nouvelles réponses à des questions qui provoquent des grands silences ou peut-être des regards honteux dans les familles, un peu comme ce qu'il vient de décrire. Mais j'en étais pas à mon premier essai ou échec de parler de ça sur scène. Et mon point de départ, c'était assez directement des conversations avec des amis artistes que je pouvais mener, artistes alors vraiment au sens large, musiciens, pas tous des personnes qui sont dans le théâtre du tout. Et en 2008-2009, pendant les bombardements de Gaza, c'était l'opération dite « plomb durci ». Et on était à Berlin, dans un milieu qu'on pourrait appeler plutôt de gauche. Et quand je voyais les réactions parfois un peu cyniques, quand elles n'étaient pas simplement complètement indifférentes à ce qui arrivait à Gaza, et aussi peut-être les sarcasmes qu'on opposait à mon indignation sur ce qui arrivait aux habitants de Gaza. Alors je me suis mise un peu en colère. La pauvre. Bref, non, je dis ça comme ça, mais il m'est apparu vraiment qu'il y avait quelque chose qui s'était produit, une rupture avec une cause qui pourtant était portée par ces mêmes personnes pendant toute la décennie, des années 90 et tout ça, après la première intifada. C'est un peu sur ces manifestations-là aussi qu'on a grandi politiquement, les gens de ma génération. Et donc là, tout d'un coup, ce moment de rupture m'a fait un peu peur, mais un peu comme beaucoup de changements à ce moment-là m'ont fait peur dans la décennie d'après, donc 2000-2010. Des espaces qui n'existaient plus, pour des raisons bien entendu étrangères à la volonté des artistes qui s'en occupaient, mais après aussi...
Des espaces artistiques, vous voulez
voilà,
dire.
Voilà, pardon, bien sûr, à Berlin en particulier, mais aussi après comment chacun fait face à la transformation de la ville, comment on intègre ou non, que ce soit des choses issues des théories managériales ou je sais pas quoi dans notre façon de produire de l'art, mais que ce soit aussi peut-être des discours qui émoussent en fait les indignations. Comment est-ce qu'on intègre finalement peut-être ça, comment est-ce qu'on... Bref, étant donné que j'avais fait un peu des voyages par-ci par-là, je me rendais compte que j'étais complètement en décalage avec un certain milieu dont je pensais venir, en fait. Je veux pas... j'ai l'air de faire des généralités, comme ça, je veux pas non plus taire le fait que c'est aussi... Je reste très attachée à ces personnes avec qui je travaillais avant à Berlin. Mais je me suis rendu compte... Enfin, voilà, quoi. C'est parfois quand on se prend... quelques râteaux qu'on se met à bouger. Voilà.
Donc le point de départ, c'est davantage un point de colère que le... que le désir de comprendre dont je parlais moi et qui m'a frappée devant votre travail la première fois que je l'ai vu il y a quelques années. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être que je ne savais pas à quel point j'avais soif de comprendre et on me donne de l'eau pour éponger une soif dont je n'avais même pas conscience.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me rappelle très bien de cet après-midi champêtre avec cette... Il y avait une personne que je ne connaissais pas bien de Suisse qui était là et à qui je commence à expliquer ce qui, selon moi, enfin, selon toutes les informations qu'on avait à disposition, se passe là-bas et qui m'interrompt en me disant... Oui, merci, ça c'est ton opinion. Et je crois que peut-être que moi je pourrais en avoir une autre. Et puis de toute manière, sur ce sujet, tout le monde dit tellement de trucs que finalement ça ne m'intéresse plus. Alors, c'est pas grave, hein, on va pas se prendre la tête pour quelqu'un qu'on est en train de saouler avec un sujet qui ne l'intéresse pas. Mais ça a peut-être piqué mon ambition de... rendre ce sujet-là intéressant, même pour un artiste branché qui vient de Suisse, quoi. Pour le dire d'une certaine façon. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de raconter cette histoire aussi du point de vue des artistes qui font un tour dans cette région, que ce soit au 19e siècle ou maintenant. Et qui ramènent des images ou des formes ou qui s'expriment là-dessus et qui donc prennent le risque aussi, justement, comme il disait, de se mêler de cette histoire, parfois juste héritée, mais parfois même pas. Parfois juste en touriste humanitaire ou politique. Et puis qui, peut-être, avec la distance, s'aperçoivent qu'ils se sont trompés sur ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont rapporté.
Quand est-ce que vous avez décidé, Adeline Rosenstein, que dans ce spectacle, il n'y aurait d'image que celle qu'on voudrait bien se faire dans notre tête?
Ah, mais ça, assez vite. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime écouter la radio. J'ai souvent entendu, je crois, sur France Q, des universitaires donner des conférences et parler d'images projetées qu'on ne voyait pas, sans les décrire. Mais du coup, je m'apercevais que ça, c'est intéressant. On se met à se les imaginer. Puis après, je me rappelle d'un moment assez dingue aussi. Je suis allée écouter le professeur Henri Laurence au Collège de France, donc lui dont je me suis énormément inspirée pour les parties du texte qui sont plus historiennes, disons. Et donc, je suis allée voir comment il faisait, là, lui, devant les gens, et avec ses images gigantesques. Et c'était rigolo. Enfin, juste la fois où j'y vais, il n'arrive plus à ouvrir un fichier, donc il y a quelqu'un qui vient l'aider, quelqu'un de très beau. Tout le monde mate comme ça. Il arrive lentement, il se penche au-dessus de son épaule. En deux, trois clics, c'est bon. Les images apparaissent. Et alors après, il se met à chercher la bonne image. Et voilà que défilent toutes les images. Vous savez, juste après l'ouverture des camps de Sabra-et-Chatila, la découverte des cadavres. Toutes ces images défilent devant nous, sans son contexte, rien comme ça. Et après, il dit « Ah non, non, non !» Et il revient en arrière, et c'est vraiment un écran très, très, très grand. Donc on est tous entre gens très sérieux, bien entendu, mais il y avait quand même quelque chose d'un peu trash, comique, dans cette situation. Il cherche la bonne image, puis après, il trouve une couverture du Times Magazine qu'il cherchait, voilà. Et donc, tout le monde s'était fait éclabousser de sang pendant ce petit moment-là. Et voilà, c'est aussi une anecdote qui me rappelle que, ouais, enfin, que les images sont ce qu'elles sont, quoi. Elles ne sont là que entourées de la parole qui nous les... Même si c'est juste deux, trois mots, mais c'est... En tout cas, au sujet de ce conflit. Après, il y a encore autre chose. Si je me rappelle bien des choses qui ont accompagné cette décision, il y avait aussi le fait que j'ai entendu une dame qui s'appelle Françoise Vergès. Elle a dit qu'elle ne voulait pas montrer d'image parce que forcément, ce qu'elle allait montrer allait sembler aux spectateurs et spectatrices exotiques. Et qu'elle n'avait pas trouvé d'autre moyen d'éviter cette sensation-là que de dire, bon ben, pas besoin d'image. Et je me suis dit, ah oui, ben c'est intéressant en fait. On peut aussi se dire, ben voilà, on y arrivera sans image. Et puis ensuite, il y a encore autre chose qui m'a accompagnée. C'est vraiment les images qui s'égosillent quelque part. Durant cette opération militaire, donc les immeubles s'effondraient sur les personnes et on allait extraire des ruines, des enfants blessés, et on les exhibait parce qu'on ne savait plus comment secouer l'opinion internationale et que l'enfant blessé extrait des ruines, c'était peut-être l'image la plus convaincante. Et que ça ne marchait pas. Et puis il y a cette journaliste qui s'appelle Amira Haas, qui vit à Ramallah, qui raconte comme sa difficulté, elle aussi, à s'adresser à une opinion en Israël, qui est complètement abgestumpft, je ne sais pas comment on dit ce mot. Le contraire d'un couteau aiguisé, c'est quand il est, vous voyez,
élimé.
Voilà, voilà. Il est gourd. Une opinion gourde. En fait, complètement rendue indifférente, en fait, par la routine et la répétition. Par le. Déjà l'indifférence, mais aussi le fait que. C'est comme si les yeux avaient développé de la corne, comme aux pieds. Et donc, on ne sent plus. L'horreur qu'on nous met sous les yeux. Alors, quelles images ? Du coup, quelles images ? Ça, c'était par rapport aux images d'actualité. Puis après, il y a les images historiques, d'archives, machin, truc. Alors là, c'était marrant, parce que plus je m'intéressais à cette histoire, plus je découvrais que... Bon, ben voilà, Bonaparte qui va en Palestine, il emmène son...
Des peintres.
Son peintre pour lui faire son beau portrait, un peu comme maintenant les politiciens ou leurs communicants et leurs conseillers à l'image, ben il avait des peintres avec qui montraient qu'il était super et puis que les batailles tout se passait bien quoi. Et pourtant, à chaque fois qu'on cherche par exemple à se renseigner sérieusement sur ces trucs, on nous colle ces images comme illustration pour comme si ça allait nous apprendre ce qui s'était passé là-bas. Ça allait nous montrer la tête des gens et à quoi ressemblaient leurs uniformes et à quoi ressemblait une bataille. Donc, quelque part aussi, on est vraiment habitué, un peu comme les bretzels avec une boisson. On est habitué à ce qui est quelque chose d'un peu visuel, plutôt coloré, c'est mieux, qui accompagne les connaissances.
Et vos projections à vous, qui n'êtes pas professeur au Collège de France, deviennent des boulettes de papier mouillé.
Voilà, exactement. Des boulettes de PQ. C'est-à-dire que ça colle. Ça reste collé, quoi. Et puis de temps en temps...
Ça dégouline.
Ça fait plof. Pendant que je parle un peu plus tard. Voilà, c'est un objet un peu inoffensif qui peut rappeler le chagrin ou qui peut rappeler la maladie ou qui peut aussi faire rien du tout. Le geste, donc je jette contre un mur, ça peut rappeler un projectile. Mais, et puis l'accumulation. Ça rappelle aussi le déchet, en fait. Voilà. Donc, oui. Donc, ce qui se passe quand on se dit, bon, de toute manière, on aime bien les images et ce qu'elles racontent très précisément, on le comprend que s'il y a du texte qui va avec ou... voilà. Si on nous dit ce qu'il faut regarder, ben, on peut aussi essayer... sans rien. Mais ce qui est beau, ce qui est vraiment magique, que j'ai découvert, que je ne savais pas que ça allait fonctionner comme ça, c'est que tout le monde regarde. Voilà.
Bonsoir. Nous vous remercions tous d'être venus écouter des conférences la nuit au théâtre. Et avant de vous présenter les trois derniers épisodes de la série d'écrit ravage, du verbe d'écrit ravager ou action d'endommager considérablement une chose en la décrivant. Je voudrais, pour ceux qui n'ont pas vu les trois premiers épisodes, annoncer que nous allons vous proposer un petit résumé. Il paraît que l'historien ne trouve pas les faits tout faits. Il paraît qu'il fait l'effet. Il fait l'effet, ça fait de l'effet. Il ne va pas au fait comme à la pêche au filet. Le passé mu et remu, ça on l'a vu. Et puis surtout, il n'est pas là. Forcément, s'il est passé, c'est qu'il n'est pas posé quelque part précisément là, juste pour nous renseigner. Est passé. A juste laissé quelques traces. Alors les traces, il y en a deux sortes. Les bavardes, traces laissées par une société définissant elle-même ce qu'est un événement. Nous l'avons vu à travers plein de publications. Et les tracitures, traces peu loquaces, pierre, os, lettres, peau, qui ne se mettent à parler que lorsque l'historien leur pose la bonne question. Alors, quand la rencontre se passe bien du point de vue de l'historien, cette trace se change en source. Et quand ça se passe moins bien, cette trace ne dit rien à l'historien.
Aline Rosenstein, c'est le début du cinquième épisode de Décrit Ravage, la série théâtrale que vous consacrez à ce que vous appelez la question palestinienne. Alors, c'est probablement pas très agréable au vu de votre visage de vous réentendre. En même temps, c'est assez indispensable pour faire entendre la forme que ça prend. On a parlé de la décision que vous avez prise de ne pas mettre d'image dans ce spectacle autre que celle que nous décidons d'avoir en tête, et donc de parler. Ce qu'on entend dans le début de ce cinquième épisode, c'est l'humour, à travers les jeux de mots, que vous ne quittez pas. Je parlais de la jubilation du spectateur ou de la spectatrice parce qu'il comprend quelque chose qui lui semblait inabordable au vu de sa complexité, mais il y a une autre jubilation qui vient du fait qu'au milieu de tout ça, il y a un humour vivace. Est-ce que ça, ça a été une décision ou est-ce que c'était simplement votre manière d'être avec nous pour nous dire ces choses-là?
Non, c'était pas une décision. C'était même la chose que je devais le plus retenir. On en parlera peut-être, mais il s'agissait de retenir le réflexe, peut-être coupable, j'en sais rien, mais en tout cas de la caricature, de la satire, de la blague. Il y a partout moyen, en fait, de prendre quelque chose et d'en faire une blague, et en particulier avec l'équipe qu'on est, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est une équipe sans laquelle ça n'aurait pas du tout été possible de continuer à faire ce truc-là. Et donc oui, évidemment, il faut plutôt le retenir. Essayer de se dire, il ne va pas s'agir que du rire. Il ne va même pas s'agir du tout du rire. Il s'agira d'encore autre chose.
D'ailleurs, j'ai parlé d'humour et pas de rire.
Oui, pardon, c'est vrai. D'humour, oui. Non, voilà. Donc au départ, quand on me posait des questions, quand ça venait de sortir et que je ne savais pas encore trop ce que j'envoyais, et qu'on me posait cette question, je disais non, pas aucun humour. Aucun humour, ça, c'était drôle. Après, maintenant j'ai compris qu'en fait, si, il est là. Mais au départ, il y a évidemment le sentiment de venir, comment on dit, se poser là devant les gens en disant quelque part, si moi j'ai réussi à rentrer dans cette histoire, à démêler certains fils, tout le monde peut le faire, donc il n'y a rien de trop dur. Et on essaye de le faire assez sérieusement pour que, si par hasard des gens directement concernés par cette histoire débarquaient là dans notre théâtre, des habitants de la région, et qui nous voient là en train de travailler, de démêler, d'imaginer, ils se disent, bon voilà, ça c'est enfin des gens qui ne font pas que de la grosse fanfare avec notre histoire. Mais qui, qui essaie vraiment de réfléchir à quelque chose.
Qui fait de la grosse fanfare avec la question palestinienne?
Pardon.
Non, non, mais c'est une vraie question. Hein.
Alors, disons, moi, avant. Voilà, c'est plus simple. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a un moment où on... Ou en tout cas, moi, j'ai eu besoin d'utiliser ce que je sais faire au théâtre pour faire le plus de bruit possible, de bruit, de, enfin, casser les oreilles. Oui, pour créer un moment qui soit... qu'est-ce que c'est, une fanfare? Quelque chose qui fasse vibrer la... la salle, qui fasse résonner à la fois les souffrances et à la fois les colères. Bon, j'en suis revenue.
Vous en êtes revenue pour quelque chose qui avance très calmement et très sûrement, avec un mélange d'entretiens que vous racontez, d'entretiens que vous faites se repasser sous nos yeux, avec des archives, idem, que vous rejouez sous nos yeux, avec ces fameuses images, Adeline Rosenstein, dont on disait tout à l'heure que c'était des papiers mouillés projetés sur des portes. Vous avancez avec des bouts d'histoire, des bouts de cartographie, des bouts de géographie et des bouts d'histoire. Et des bouts d'histoire et encore des bouts d'histoire et encore des bouts d'histoire. Il y a un homme, vous avez cité son nom tout à l'heure, mais un peu rapidement, qui s'appelle Henri Lorenz et que vous êtes allé voir au Collège de France pour lui demander quoi?
Bon, il y a lui, oui, je lui ai demandé, lorsque je résume, est-ce que je tords tout? Ou bien, est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai lu?
Lorsque vous résumez au public.
Ouais, lorsque j'essaye de résumer quelque chose de complexe, je le déforme.
Et qu'est-ce qu'il a dit?
C'est compliqué. Eh bien, à chaque fois, voilà, il fallait plutôt l'écouter me redire ce que j'ai cru avoir compris, m'apercevoir que j'avais pas compris et regarder comment lentement des choses entrent ou n'entrent pas dans la tête. Parfois les mêmes questions revenaient d'un an à l'autre jusqu'à ce que, ben oui, enfin voilà, je voudrais vraiment dire ici que je revendique un peu le fait de ne pas être une spécialiste de cette question et de plutôt d'être à l'endroit, oui, de la personne qui voudrait comprendre et qui ne voudrait pas qu'on lui simplifie les choses, qui voudrait, ouais, faire le tour de la question. Alors, évidemment que c'est... Je ne prétends pas que j'y arrive, mais je raconte ce qui m'arrive lorsque je rencontre des gens qui se baladent, qui accompagnent cette question depuis quelques années, enfin Henri Lorenz depuis beaucoup d'années, des plus jeunes depuis un peu moins. Et donc, en fait, c'est surtout ça mon travail, c'est parler de ceux que j'ai rencontrés, qui m'ont parlé.
Et qui partageaient avec vous le besoin de comprendre sans qu'on leur simplifie les choses? Est-ce que vous n'avez rencontré sur votre chemin, Adeline Rosenstein, que des personnes qui avaient autant de désirs de complexité?
Ben, en fait, ce qui se passe, c'est les chercheurs, les universitaires, ils viennent après les crises ou ce qui s'est passé pour en parler. Et après viennent les artistes. Donc, quelque part, on vient après ceux qui viennent après. Et à part les historiens, bien sûr qu'il y a ceux qui essayent d'être plus immédiatement en train de relayer quelque chose qui se passe, qui sont bien sûr les journalistes, les militants, les personnes sur le terrain, que ce soit dans l'humanitaire, etc. Et puis après, bien sûr, les politiques. Moi, je ne suis pas abonnée à la complexité du tout. J'étais pendant très longtemps très méfiante avec tous ceux qui viennent après. Pour dire qu'ils se comprennent mieux, qu'ils savent mieux et tout ça. Et puis finalement, j'ai commencé à m'intéresser à leur position, à leur distance, à leur tapis volant, du haut duquel on peut voir parfois des choses qu'on ne voit pas du tout quand on est dedans jusqu'au cou. Et donc... Non, j'ai pas du tout rencontré que des personnes qui recherchent la complexité. Par contre, c'est sûr que je ne peux parler que des personnes qui, pour une raison ou une autre, avaient quelque sympathie pour le théâtre. J'ai pu en rencontrer, par contre, beaucoup qui, lorsqu'ils apprennent qu'en fait, ce que je fais, c'est du théâtre, n'ont plus le temps, quoi. Enfin, n'ont pas de temps à perdre avec ça, quoi.
Et par exemple, puisque c'est aussi le théâtre qui est au cœur de vos recherches, en allant chercher des pièces de théâtre qui peut-être ont précédé certains chercheurs, ou ont dit des choses avant qu'on les redécouvre un petit peu plus tard, vous rencontrez Ashraf, metteur en scène palestinien.
Bon, je m'adresse à Ashraf. Ashraf, c'est un tout jeune metteur en scène palestinien de la ville de Naplouse qui est arrivé à Bruxelles il y a très peu de temps. Et je lui ai présenté le même extrait pour qu'il m'aide à le traduire et qu'il me dise ce qu'il en pense.
On a raconté tous. On a raconté à tout le monde. On a raconté à toutes les langues, avec toutes les langues. On a parlé avec tous les corps. Ils ont nous dit « montrez-leur ». On a leur montré. On a leur montré à notre blesse. On a leur montré à notre mal, et parce qu'on avait mal. On a leur montré tout. Une Européenne dame, elle est venue chez nous. Il a vu notre vie. Il a commencé à pleuvoir. Pleuvoir ? À pleurer. Il a commencé à pleurer. Je le dis, il faut pas pleurer, madame. Comment je dis tears?
Larmes.
Tes larmes, ils vont heal.
Soigner.
Ouais. Voilà, tes
larmes,
ils vont soigner. Ils vont t'assoyer, pas nous soyer. Pas nous soyons. Pas nous soigner. On veut pas quelqu'un qui ne regarde et devient malade et avec ses larmes, il s'assoigne. Il faut pas pleurer. Personne ne doit pleurer, il faut se fâcher. Voilà. C'est là, quand je lis le texte en arabe, ça me prit une image. Quand je suis en Palestine, tu vois, tu habites dans la merde, tu as tous les checkpoints, tu as les enfants qui pleurent tout le temps, tu as l'occupation, tu as les gens qui sont mal, les gens qui ont perdu leur enfant et tout ça. Et toi ? Tu viens de Suisse, tu viens de la Suisse, tu viens en Palestine et je te raconte l'histoire. Et tu commences à pleurer, ok ? Et parce que tu sais rien faire. Et quand tu as pleuré, après 10 minutes, on commence à rigoler. Parce que quand tu as pleuré, t'as soigné. Et après, c'est bon pour toi. Mais pour nous, c'est pas bon, tu vois ? C'est pour ça ce qu'il dit, qu'on n'a pas besoin de gens qui pleurent, qui viennent chez nous et qui pleurent. On a besoin de gens qui se fâchent. Comme ça, il change. Tu comprends ?
Oui. Merci.
Aline Rosenstein, c'est la voix de Isabelle Nouza, l'une des interprètes qui est au plateau avec vous. En fait, je dis c'est la voix d'Isabelle Nouza, mais c'est la voix aussi de Ashraf, ce metteur en scène palestinien à qui vous vous adressez pour une question de traduction, parce que juste avant, dans le spectacle sur scène, vous dites qu'il y a des choses qui peut-être n'ont pas circulé dans un savoir, dans le savoir commun, parce que certaines pièces de théâtre n'ont pas été traduites, dites-vous. Et ces pièces de théâtre, vous allez vers elles, et vous allez vers elles avec vos propres questions de traduction. Alors tout ça est un moment qu'on a choisi, parce que c'est vraiment un moment de poupée russe, parce que cette comédienne qui devient la voix de Ashraf, elle a un Walkman, elle a un casque sur les oreilles dont on imagine qu'elle a peut-être la vraie voix de Ashraf dans les oreilles et que donc elle-même, ce qu'elle est en train de faire au plateau pour nous, et j'en ai beaucoup d'émotions à le dire, c'est qu'elle traduit quelque chose. Elle traduit une langue, elle traduit un vécu, elle traduit un corps, elle traduit quelque chose qui, si elle n'était pas là, ne pourrait pas venir jusqu'à nous. Alors, il me semble qu'avec cet exemple poupée russe, Aline Rosenstein, on dit aussi beaucoup de ce spectacle d'écrit ravage sur ce qu'il dit de la nécessité de la traduction.
Mmh. Oui, c'est il faut vraiment, comme vous l'avez dit, quoi, se rendre compte que c'est cette position de l'interprète. Isabelle Nouza, elle a cette grâce, enfin je sais pas, on entend ça aussi par rapport aux voix. Donc on est dans une salle qui est un peu difficile, donc je surarticule, ce qui rend pour moi le fait d'écouter ma voix encore un peu plus désagréable que d'habitude. Selon les salles, on peut parler plus tranquillement qu'ici ou là, mais Isabelle, dans ce moment-là, elle réussit avec vraiment sa grâce à elle de à la fois de comédienne, mais aussi parce que c'est aussi son travail, elle est réalisatrice, elle est cinéaste et elle voyage beaucoup dans le Moyen-Orient. Elle sait comment s'approcher de cette personne qui a peut-être tel ou tel qui cherche des mots. Nous aussi, on cherche des mots. Elle reproduit la vitesse à laquelle il parle. Elle reproduit certaines de ses erreurs syntaxiques. Elle ne reproduit pas son accent. À aucun moment, on a l'impression qu'elle le montre du doigt ou qu'elle le met à nu. Elle révèle quelque chose de la morphologie de cette langue. Et en même temps, parce que c'est aussi un peu ça le sujet dans Décrit Ravage, qui détient les connaissances, qui nous les transmet comment. Y a un autre extrait de traduction où vraiment on enregistre un prof à l'université qui découvre un texte de théâtre et essaie de nous le traduire un peu de la même manière, hein, comme le fait Ashraf. Donc Ashraf découvre le texte et essaie de le traduire en même temps. Donc quand on essaye de traduire en même temps, on fait des gestes. Et donc, nous, on note aussi quels gestes ils font. Donc, il y a des silences qui sont habités par des gestes. Le professeur à l'université, il fait pareil. Il fait aussi des gestes. Il cherche aussi ses mots, sauf qu'il tombe sur les mauvais. Et surtout, il est vraiment tellement éloigné. Bon, le pauvre, c'est pas de sa faute, mais voilà, de la situation qui est décrite par l'auteur.
Et qui est ?
Alors là, en l'occurrence, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est une citation d'une pièce d'Alfred Farage, un auteur égyptien, qui s'appelle « Le feu et l'olive », un narwal zaytoun, qui a été publié en 1970. Une pièce documentaire, donc avec une alternance entre des scènes d'un type théâtre un peu populaire et des scènes qui sont plus théâtre documentaire, voire militant. Et donc, je cherchais à chaque fois des pièces dans lesquelles pouvait apparaître mon personnage, si vous voulez, c'est-à-dire une personne européenne, soit journaliste, soit artiste, soit observateur, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui regarde comment, depuis le monde arabe, on décrit ça, quoi. On décrit cette présence de ces occidentaux peut-être engagé, mais on n'est pas sûr. Voilà. Et donc.
Et qui pleure.
Alors là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui pleurait, à qui on disait que ça ne servait à rien de pleurer. En même temps, c'est sûr que ce moment où Ashraf ne se rappelle pas comment on dit le mot pleurer, et on est tous en train de répéter à voix basse, pleurer, larmes, larmes. On lui souffle, larmes, larmes, pleurer, larmes, larmes. Ah ouais, comment ? Alors que les mouchoirs sont collés contre les murs et que lui cherche ses mots, ça peut devenir drôle. Ça ne l'est juste pas. C'est juste un peu avant. C'est une façon de.
Ça peut devenir dramatique aussi. Enfin, je veux dire, ça peut pleurer très très fort.
Hein. Oui. Ça peut aussi. Et puis c'est voilà. C'est comme un vase qui va déborder et on se demande si ça va couler par-ci ou par-là. On ne sait pas. Est-ce qu'il rit? Est-ce qu'il ne rit pas? Donc, je voulais aussi dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles à ça. Normalement, c'est introduit aussi dans le spectacle. Tout le monde est appelé par son prénom, qu'il soit professeur ou pas professeur, jeune ou pas jeune. Je dis juste les prénoms. C'est pas parce qu'il est palestinien qu'on ne dit pas son nom de famille, surtout si c'est un jeune metteur en scène. Entre-temps, je crois qu'il ne fait plus de théâtre. Il est arrivé, il en faisait quand il était à Naplouse. Il en a fait au début dans des groupes plutôt amateurs, je crois. J'aurais bien voulu continuer un échange avec lui. Il a quitté Bruxelles, il habite ailleurs, en Belgique. On ne se voit pas très souvent. Il y a certains événements un peu où on se recroise, mais voilà. Donc il a un autre travail à part ça aussi. Donc,
mais sur la question de la traduction, Adeline Rosenstein, oui. Si je vous pose la question, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de la question palestinienne, du conflit israélo-palestinien, qu'il y avait à traduire.
Oui. Alors, il y a la question pourquoi ces pièces ne sont pas traduites, donc des pièces sur le conflit écrites dans le monde arabe. Bon, pourquoi beaucoup de théâtre de langue arabe n'est pas traduit? Ça, c'est une question des éditeurs, etc. Ça peut peut-être encore changer. Ça m'a donné envie de créer un projet avec, j'imaginais, des équipes dans différents pays qui se mettent à rechercher des pièces qui traitent de ce sujet et qui en traduisent des extraits pour voilà, une anthologie Nakba ou quelque chose comme ça. Ça pose beaucoup de questions, notamment sur. Donc, pour moi, ce que je découvre aussi, c'est vraiment les enjeux dans les choix des mots, mais aussi les tentatives, en fait, les tentatives de raconter cette histoire-là. Toutes ces dernières années, avec les moyens du théâtre ou de la pièce militante à la scène dialoguée, à la pièce plus, plus hybride. Il faut bien le reconnaître. En tout cas, mon intention, peut-être, lorsque je les cite, c'est de montrer, voilà, on est nombreux, comme là ce soir avec nous, les comédiens et vous dans le public, on est nombreux de par le monde à se demander quelle est la bonne forme, en fait, à chercher avec des, comment dire, des balances de pharmaciens, combien de. Oui, combien d'humour, combien d'informations, combien de drames, combien de larmes. Comment on va raconter cette histoire parce qu'on ne veut pas vous plomber. Hein. C'est des très grands auteurs qui s'attaquent à ça. Pas comme moi qui recueille par-ci, par-là, comme ça. Là, tout d'un coup, je tombe sur des textes littéraires puissants. Et ma maladresse à en rendre la puissance, je la mets sur le compte de mon ignorance de la langue, c'est certes. Mais après, je vais chercher des tas de gens qui savent mieux que moi. Et on est tous un peu impuissants à trouver la bonne façon de raconter cette histoire. Mais ce faisant, je crois qu'on laisse au spectateur la sensation d'un petit monde qui dans cette recherche, s'entend. D'accord ? On ne dit jamais « on va s'entendre », etc. Ça, c'est pas mon propos. Mais là, on se comprend avec les difficultés qu'on a les uns les autres et qu'on pressent chez les uns et les autres.
Et vous soulignez ce faisant aussi que la manière et les mots choisis pour raconter une histoire ne sont pas sans conséquence ni sans effet sur la manière de les recevoir, de les comprendre et éventuellement de s'y intéresser, pour reprendre le début de notre discussion, Adeline Rose. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, à comprendre ou non ce théâtre non traduit, ce que ça nous dit à nous, qui vous écoutons et qui vous regardons vous débattre avec tout ça, c'est que c'est important. Les mots avec lesquels on dit les choses sont importants.
Oui. Et que ça fait longtemps que tout le monde cherche. Bref, ce que...
Et qu'il y a des mots qu'on comprend plus, qu'on n'entend plus. La nation, la frontière, la libération, la guerre... Une maison.
Voilà, c'est ça. Il fallait aussi prendre le temps de redire ça, que l'usage change, les événements, les usages, l'un percute l'autre. Et donc, la personne qui a 85 ans, qui utilise un certain mot...
ne désigne plus exactement ce que voulait dire le mot pour lui il y a 30 ans.
Voilà. Et du coup, on s'aperçoit que son passé a bougé. En fait, quelque part, le passé devient incertain pour lui-même. Et donc, ça va pas être facile de parler avec lui du passé, vu le décalage entre... ce qu'il dit ou ce que je crois comprendre de ce qu'il dit et ce que j'ai lu. Bon, en particulier lorsqu'il y a tellement de mensonges, de tabous et de déni, on peut dire. Je voudrais juste rajouter un truc. Ce qui est effarant, c'est de comparer tout ce travail à trouver le mot juste. Auxquels s'attaquent des auteurs immenses ou des chercheurs de partout. Et par contre, la réalité du conflit, c'est la brutalité, la bêtise, en fait, la grossièreté, la violence. Enfin, j'ai l'impression... C'est fou quand même, quelque part. On s'est tous chargés de cette responsabilité Oui, quelque part, on peut dire ça, d'être au service d'une certaine vérité en même temps qu'on la recherche. On s'autocritique beaucoup et on... Comme là, comme quand je cherche les mots pour finir cette phrase, on fait très très attention. Voilà. Et puis là-bas, il y a plein de gens qui font, mais tellement pas attention du tout.
Je ne suis pas seulement metteur en scène, je suis aussi quelqu'un qui s'occupe avec les recherches méthodiques. Ensuite, je suis en même temps beaucoup plus une sorte de guide professionnel, si vous voulez. Guide artistique des acteurs que seulement on mettait en scène. Et c'est une situation qui est tout à fait spéciale. Cette situation assez dangereuse, assez grande. Pour éviter ce danger, moi-même, j'évite de toutes les pressions, pour pousser l'acteur à un acte de création authentique. Mais je n'oblige de l'acteur jamais faire ce dépassement authentique des barrières quotidiennes et créer ce quelque chose assez mystérieux et assez difficile que nous nommons l'acte total de l'acteur. Cela, si quelqu'un a une nécessité de faire cela, il fera. S'il n'a pas de nécessité, il ne fera pas. Il sera alors assez discipliné et assez sincère. Et c'est déjà ne sera pas médiocre.
C'est une archive du metteur en scène Jerzy Grotowski sur la nécessité que vous avez partagée avec les interprètes qui vous accompagnent au plateau pour cette série théâtrale d'écrit ravage, dont on ne peut pas imaginer qu'elle est aussi grande que la vôtre. C'est-à-dire dont on ne peut pas imaginer qu'elle est... Est-ce que ma phrase est juste ?
Oui.
On imagine qu'elle est aussi grande que la vôtre, cette nécessité.
Chez eux. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est un travail collectif. Dans le sens où, moi, je pense qu'il y a eu plusieurs moments où j'étais découragée.
Parce que ça vous semblait trop long, trop compliqué ?
Mais parce que, en fait, c'était quelque chose qui... J'étais arrivée à ce résultat à tâtons, après avoir constaté que ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait faire ça, ça et ça. Mais c'était quelque part une nécessité de ne pas refaire telle et telle et telle erreur. Et était-ce vraiment le théâtre que moi, en tant que spectatrice, j'aurais envie de voir ? Je n'en savais rien. J'en savais rien. À plein d'égards, je me disais, en tout cas, je sais que c'est pas le théâtre que j'aime lire. C'est pas non plus le théâtre que j'aime mettre en scène. Est-ce que j'aimerais voir ça ? Je sais pas. A priori, le théâtre documentaire, dit documentaire, ça m'inspire moyennement. Parfois, oui, je tombe sur des trucs très très forts, mais alors c'est souvent même quand c'est des gens pas de théâtre qui en font. Je vois trop de choses où j'ai l'impression qu'on oublie trop vite que la factualité du texte est en réalité stylistique, rhétorique. Et puis qu'en général, pour que ça fasse factuel, il faut qu'il y ait le moins d'efforts possibles, le moins de constructions possibles, etc. C'est une position qui m'apparaissait parfois plutôt opportuniste. Et je me demandais, est-ce que je suis en train de l'adopter, là, tout d'un coup ? Est-ce que je suis en train de faire ça, faire des effets de réel, comme disait l'autre ? Et pourtant, non, je refaisais le chemin dans ma tête et je me disais, non, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, voilà. Et si les autres n'avaient pas été là pour me dire, oui, en effet, on y va... Enfin, s'ils n'avaient pas été là, eux qui ont des regards différents. Hein. Vraiment, on est sur scène, 5 personnes qui ont une pratique artistique et d'écriture eux-mêmes et de mise en scène. Ou en tout cas qui sont très très fortement liées au regard sur le théâtre. Pas seulement à la passion de jouer... Excusez-moi. Même si, bon, évidemment que tout le monde en fait preuve hein, de passion, sinon on n'aurait pas tenu, parce que, bon, ça ne s'appelle pas à tout le monde ce qu'on fait, hein, c'est normal. Mais enfin bref, s'il n'y avait pas eu ces regards vers qui je me tournais en disant « Mais vous êtes sûr qu'on continue comme ça ?» et qu'ils me répondent « Oui ». Et qui ne m'avait pas répondu que oui, on aurait arrêté. Ouais, un épisode, c'est bon. De toute manière, on déroule le fil, il y a une certaine chronologie, on commence avec Bonaparte, tout ça. Ensuite, on est dans les années 30 du 19e siècle, puis après, on arrive vers la fin du 19e siècle, les questions raciales, etc. On se rapproche petit à petit des choses qu'on connaît mieux. Mais pendant longtemps, on était là, dans cette première moitié du 19e siècle, puisqu'on a construit ça un épisode par an. Pendant longtemps, on était dans quelque chose d'assez loin des spectateurs, enfin en tout cas de certains, et la question, est-ce qu'on tient ? Parce que oui, le projet d'arriver à raconter, en tout cas jusqu'à la création de l'État d'Israël, en 12 ou 6 épisodes, puisque ça s'est replié d'une demi-heure. Bref, on aurait pu s'arrêter à deux, parce que quand on fait ces épisodes, ils sont construits donc d'une façon assez horlogère. Beaucoup mieux que mon discours, par exemple. C'est pas pour rien que c'est plutôt... Voilà. Bref, ils sont bien construits, ces petits épisodes. Ça va assez vite. Et pour les gens, même quand ça durait que 45 minutes, donc le prologue plus premier épisode, ils en sortaient. Waouh ! Alors là, il y avait beaucoup d'infos. Alors là, c'était beaucoup. Et vraiment, personne n'aurait imaginé qu'en fait, on puisse rester en fait attentif, trois heures.
Et on le peut. Merci beaucoup Aline Rosenstein. On a parlé de Décrire Ravage, cette série théâtrale que vous allez présenter dans le cadre du festival Théâtre en mai au Théâtre de Dijon, Bourgogne, Théâtre en mai, mais en juin, puisque vous jouez les 2 et 3 juin. Est-ce que vous voulez bien juste dire les noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent sur scène rapidement ?
Ah oui, bien entendu. Alors, en alternance, il y a Léa Drouet, comédienne metteuse en scène, ou Thibaut Wenger, comédien, metteur en scène lui aussi. Céline Aurel, comédienne, metteuse en scène et auteur. Isabelle Noza, comédienne et réalisatrice de cinéma, on l'a entendu tout à l'heure. Et Olindo Bolzan, comédien, poète.
They made a fire in the garden. They made a fire in the garden. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground.
Est-ce qu'il y a une toute petite chose qu'on s'est pas dite ?
Two horses passed for riders on.
Je pense que ça, c'est la question que je vais prendre avec moi et qui va m'accompagner les prochains jours.
Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h sur France Culture et quand vous voulez sur franceculture.fr et en podcast. Au son, c'était Manon Houssin, à la réalisation Yael Mandelbaum, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Copelia Ménardi et Corinne Amar m'aident à penser cette émission et je réponds @MarieRicheux sur Twitter.
The old machine. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. It's a short way from the sixth floor. It's a short way from the sixth floor. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. Shape on the ground, see the shape on the ground. They worship stars, erecting stones. They worship stars, erecting stones. You can only see the shape on the ground, see the shape ground. A man is dead, a man is gone, a man is dead. The man is gone. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. An airplane slides across the sun. An airplane slides across the sun. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground. You can only see the shape on the ground. See the shape on the ground.